Azione!
J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
Il n'y a vraiment pas de quoi rire. Hein. C'est vraiment un AV, ce film.
Vous voyez, je dois rien bouleverser.
Vous ne trouvez pas ce film formidable? Moi, si. J'ai eu tellement pitié du malheureux monde.
Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
C'est un très beau film, j'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
On vit une époque formidable, Michel. Absolument. Tous les jours, on en a plein les yeux. Get out.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Le Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique, uniquement sur Transistor. Et aujourd'hui, on est en studio avec Aubry et Nathan de Rechef, comme la semaine dernière, pour parler d'Une bataille après l'autre, le nouveau film de Paul Thomas Anderson, et seulement le troisième de Leonardo DiCaprio dans les années 2020. Un film qui connaît un immense succès public en France comme aux États-Unis, où certains le voient déjà comme le meilleur film du 21e siècle. Titre comme chacun sait, et qui est dévolu à Illusion perdue. Le comptoir saluera-t-il aussi ce très long métrage ou bien serons-nous plus mitigés? La réponse dans quelques instants. Les batailles du titre, ce sont celles que mène, dans la première partie du film, qui agit un peu comme un prologue, hein. Ce sont celles que mènent donc les French 75, un groupuscule antifasciste prenant l'action directe et possiblement violente pour mener à bien la révolution, en prenant d'assaut centres de rétention administratif, QG de campagne de candidats véreux et autres banques. Au sein des French 75, Perfidia Beverly Hills, qui est interprétée par Teyana Taylor, est la leader charismatique et ghettopathe, c'est donc Leonardo DiCaprio, s'occupe du son et lumière. Comprendre, il sait utiliser les explosifs. Tout aussi explosive est leur relation, pleine de sexe et de passion. Ces 30 premières minutes lient en effet pas mal, hein, révolution et désir. Cependant, à force de coups d'éclat, les French 75 finissent par se faire un ennemi personnel et tenace en la personne du colonel Lockjaw, qui est incarné par Sean Penn. Un militaire fasciste a la démarche un peu étrange. Il marche comme un robot, hein, qui est obsédé par Perfidia, laquelle s'est jouée du fétichisme de cet ennemi, hein, ça veut dire du cul, là encore, passez-moi l'expression. Bref, arrive un moment où Perfidia tombe enceinte et accouche d'une petite fille, Charlène, à laquelle Ghettopathe consacre vite toute son attention, au point que Perfidia les abandonne tous deux pour un autre groupe d'action, en non-mixité noire et féminine, dont un braquage finit par mal tourner. Pour sauver sa peau, Perfidia, qui est capturée par Lockjaw, accepte de livrer ses anciens camarades qui doivent fuir loin. Parmi eux, Ghettopathe et Charlène, qui deviennent Bob et Willa Ferguson. 16 ans plus tard, à notre époque, quand bien même rien ne nous séparait vraiment non plus de la temporalité du prologue, Willa a bien grandi et Bob est devenu un dude dans la plus pure lignée du Big Lebowski des frères Cohen, hein, le cerveau grillé par l'alcool et par les drogues. Mais voilà que Lockjaw, qui cherche à intégrer une société de suprémacistes blancs, qui s'appelle les Aventuriers de Noël, décide de mettre de l'ordre une bonne fois pour toutes dans ses missions passées et donc de supprimer ces derniers reliquats que sont DiCaprio et sa fille, qui est incarnée à 16 ans par la jeune Chase Infinity. S'ensuit une série de courses-poursuites de plus en plus absurdes, où l'on croisera notamment un réseau d'accueil de migrants clandestins tenu par un prof de judo incarné par Benicio del Toro, des complots dans des complots et un mot de passe qu'on n'arrive pas à retrouver. Alors, j'avouerai que je ne me suis pas fait un avis tout de suite sur Une bataille après l'autre, et si le film est clairement irréprochable en termes de mise en scène, avec des fulgurances qui sont assez impressionnantes, je trouve, autant que dans sa direction d'acteur et d'actrice, il ne me semble pas qu'il faille le prendre autrement que comme une comédie, ce qui n'est pas du tout un motif de dévaluation en soi. Simplement, ça peut le devenir dans la mesure où il n'est pas à la hauteur des ambitions politiques qu'il semble se donner, et que le public, notamment américain, lui voit. Ou alors, c'est que, et on pourra y revenir, Paul Thomas Anderson est conscient de cette ambiguïté-là et tourne volontairement tous les parties différents en dérision. Dans les deux cas, c'est un peu dommageable pour le film parce qu'il repose sur son rapport à la politique et donc ce rapport est très incertain ou ambigu. Le tout sans compter que narrativement, les ficelles sont assez grosses et que le récit ne sort que très peu des codes proposés. Pareil, on pourra y revenir. Il s'y inscrit même complètement dans ces codes, tout en essayant de les ronger de l'intérieur par le burlesque, la moquerie ou encore l'humiliation. Bon, cela dit, à nouveau, c'est effectivement mené d'une main de maître et dans le panier supérieur, dans le haut du panier plutôt, de la production récente des grands studios américains, puisqu'il est produit exclusivement par la Warner. Hein, c'est loin d'être un film indépendant façon... l'autre, là, Sean Baker, voilà. Mais il me semble qu'on est loin d'une la force épique vers laquelle il voudrait tendre. Voilà, ça manque de noirceur, ça manque de sérieux. Donc, à mon avis, c'est une comédie superbement tournée et interprétée, mais j'ai du mal à comprendre l'extase du public outre-Atlantique. Ou alors, c'est peut-être effectivement du seul fait de la présidence actuelle qu'ils se réjouissent qu'un film pareil existe. Aubry, qu'est-ce que toi, tu en as pensé du Paul Thomas Anderson ?
Bah écoute, un peu mitigé aussi. Comment dire ? Je trouve qu'effectivement, c'est très bien fait. Je passe un très bon moment devant. Il n'y a pas de souci, le film est drôle. La plupart des acteurs et actrices du cast sont vraiment chouettes, et en particulier Leonardo DiCaprio, mais aussi Benicio Del Toro. J'adore la musique du film. La musique,
ouais,
est
la musique
folle.
Elle est composée notamment par Johnny Greenwood, le mec de Radiohead.
Ouais, qui était déjà compositeur sur, sur les derniers films, enfin pas mal de films de Paul Thomas Anderson. Mais voilà, en fait, je trouve que si le film est réjouissant, que ce soit en termes d'action, en termes de, effectivement, de purement de comédie, de burlesque, etc., je trouve qu'en fait, politiquement, ça se dégonfle à une vitesse extraordinaire. En fait, le gros problème que j'ai, c'est que en fait, Paul Thomas Anderson commence un film qui en fait semble se dévouer à ces histoires de lutte armée antifasciste, etc., dans des États-Unis d'aujourd'hui, mais en même temps peut-être un peu projeté aussi. Et en fait, il abandonne ça excessivement vite, à mon avis, pour juste se concentrer sur une histoire de famille. Ce qui n'est pas forcément un défaut en soi, mais en fait, je trouve que là, le film se vide d'un coup. Pas forcément non plus mal fait, il n'y a rien de honteux, mais du coup pour moi il gâche tout le potentiel, et surtout en fait il tombe dans son propre piège qui est celui de la redite, c'est-à-dire que les questions de filiation, enfin de parents qui abandonnent leurs enfants, c'est des trucs qui ont déjà cours dans le cinéma de Paul Thomas Anderson, enfin il y a There Will Be Blood forcément. Et surtout les histoires de relations familiales un peu déchirées, qui se rabibochent, qui essayent de se refaire, de s'expliquer, etc. Bah, je veux dire, c'est tout le cœur narratif et thématique de Magnolia. Sauf que Magnolia, précisément, vu que c'est son cœur narratif et thématique, il n'a pas le cul entre deux chaises avec un film de... Enfin, une espèce de truc complètement rageur à côté, quoi. Donc, ouais, enfin, j'ai passé un bon moment, mais un peu oubliable quand même, quoi.
Merci beaucoup. Et toi, Nathan, c'est quoi ton avis sur ce film-là ?
C'est intéressant parce que Alors, j'ai trouvé ça vraiment super. Alors, je vous rejoins sur le fait que c'est pas... Il n'y a rien de révolutionnaire, mais je trouve que... Déjà, je l'ai beaucoup préféré à... Enfin, beaucoup, je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas très bien, en tout cas. Mais il me semble avoir préféré à Licorice Pizza, qui est le dernier film de Paul Thomas Anderson. J'ai passé un bien meilleur moment. Et je trouve que... vous l'avez dit, mais c'est pas... Je trouve que ce n'est pas à négliger. C'est que vraiment, c'est mené d'une main de maître, quoi. Enfin, franchement, ouais, c'est la mise en scène. Tu l'as cité, il y a des séquences quand même. On y reviendra sûrement, mais il y a des séquences qui sont complètement dingos. Et toujours très subtilement, quoi. C'est vraiment juste un truc qui est très lentement amené et qui devient finalement le cœur d'une séquence. Enfin, c'est forcément, je pense à la scène de fin de la dernière course poursuite où il y a une tension qui monte sur un élément vraiment assez débile en apparence et où petit à petit ça devient même l'élément de résolution. Je trouve que c'est au niveau du rythme, c'est assez implacable. Je trouve que le film est très...
Ouais, on ne voit pas passer. Ça fait 2h42.
On ne voit pas passer. Et sur cet entre-deux que vous citez, notamment Louis, entre la comédie... Alors moi, tu vois, je suis moins radical sur le genre. Je ne trouve pas que ce soit foncièrement une comédie. Moi, j'ai beaucoup ri. C'est très drôle, mais c'est très satirique, quoi. Il y a aussi beaucoup de... Ouais. Je ne trouve pas que ce soit aussi... Et je trouve notamment que la comédie... est toujours, mais parfaitement dosé, quoi. Par exemple, le personnage de Benicio Del Toro que vous avez tous les deux cité, qui est vraiment super et de fait hilarant, mais c'est pas, c'est jamais over the top, c'est toujours très... même d'ailleurs, moi j'ai été surpris, toute la scène où DiCaprio vient le voir dans son dojo en pleine nuit, quand j'avais vu la bande-annonce, je sais pas pourquoi, j'avais une impression différente de cette scène. Quand elle est arrivée dans le film, je me suis dit ça va être très long, il va y avoir beaucoup de gags, etc. Et finalement, non, c'est vraiment très efficace, ça va très vite, mais c'est très... Bref, je trouve que c'est vraiment au cordeau, quoi. Et pour le coup, c'est hyper intéressant ce que tu dis, Aubry, parce que moi, j'ai pas du tout vu ça comme une histoire de famille, quoi. Mais vraiment pas.
Okay.
Et je pense que c'est peut-être... Et alors... Là où je dis que c'est intéressant, c'est que pour moi, c'était pas le sujet. Moi, j'ai vraiment vu un film, et ça m'a beaucoup plu, sur la fraternité, la sororité, la solidarité dans la lutte, en fait. C'est-à-dire qu'il y a plein de... Enfin, le personnage du sensei, plein de personnages qui apparaissent comme ça d'un coup, et qui sont en fait révolutionnaires, ou qui sont militants, et on ne le sait pas, et ça apparaît, et ils se serrent tous les coudes. Enfin, je trouve que ce truc-là est... En vrai, aussi dans une période comme la nôtre, assez réjouissant. Il y a un truc où moi, il y avait des moments, une scène dans l'hôpital notamment, où DiCaprio va à l'hôpital et finalement, bon, bref, il y a des péripéties, machin. Et où vraiment, j'étais... J'ai sourié un peu bêtement devant l'écran à chaque fois qu'il y avait un nouveau soutien, une nouvelle solidarité. Donc ça, j'ai trouvé ça super. Et du coup, ça a complètement occulté pour moi l'aspect histoire de famille, qui en plus, comme le personnage de Perfidia disparaît quand même assez rapidement et brutalement, pour moi n'était pas forcément au cœur. J'ai pas l'impression que ce soit ce qui préoccupe le plus le personnage de DiCaprio pendant tout le film, le personnage de sa fille un peu plus, parce qu'il y a cette histoire d'héritage et tout, mais je trouve que c'est un peu moins c'est plus en filigrane. Et du coup, c'est vrai que quand même, moi, la fin m'a beaucoup déçu, parce que la scène de fin, pour le coup, il tombe dans un truc où complètement, pour le coup, sur la famille, cette histoire, recoller les liens, etc. Et pour moi, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe, justement parce ce n'était pas du tout le cœur du film pour moi. Et du coup, sur ce point-là, je te rejoins. À ce moment-là, je me suis dit, ah, c'est dommage, le film ne sait pas ce qu'il a entre les mains, et du coup, il a un peu le cul entre deux chaises. Alors que... le reste du temps, pour moi, c'était vraiment très juste. Et globalement, voilà, pour finir cet avis introductif, j'ai vraiment beaucoup aimé, quoi.
Merci. Oui.
Non, vas-y.
Merci beaucoup à tous les deux. Et je pense qu'effectivement, la chose sur laquelle on peut se retrouver, effectivement, c'est la question de la mise en scène. Peut-être par là, on peut commencer par là. Nathan, tu parlais de scènes assez dingues ils ont plusieurs fois construites sur une montée en puissance, et comme le film est long, il peut se donner le temps de faire des scènes qui sont très très longues. Moi, je suis assez encore maintenant marqué par la scène centrale qui est brillante, donc celle qui se passe de nuit, alors que les forces paramilitaires ou militaires de Lockjaw arrivent dans la ville où vivent Bob et sa fille. Cette scène, elle est assez fabuleuse dans sa construction aussi. Et vous parliez de la musique, enfin Aubry, tu disais un mot de la musique. Effectivement, je trouve que elle est vraiment une part intégrante de la mise en scène dans cette scène-là, puisqu'on voit en fait les conséquences de l'arrivée des forces militaires dans plein d'endroits différents. Et en fait, je pense que ça doit bien durer une demi-heure, hein, au moins. Et en fait, toutes ces vignettes sont liées entre elles par une musique qui est continue, mais qui est vraiment continue. Donc, en dépit de grosses ruptures de ton visuel, en fait, il y a une tension qui naît de la continuité musicale, qui est vraiment pas du tout mélodique, mais qui est composée d'une suite de notes, que ce soit au piano, que ce soit à la flûte, assez inquiétante, et qui fait monter une menace vraiment dérangeante, assez invisible, puisqu'on voit pas tant que ça les troupes, on les voit un peu, mais on voit surtout les conséquences et la fuite des gens, etc. Et donc, ça donne un lien impressionnant entre à la fois une scène comique où Bob appelle des révolutionnaires qui refusent de lui donner un mot de passe que lui il a oublié, des scènes pas du tout comiques comme les rafles de travailleurs sans papier, des scènes entre les deux comme la planque du réseau clandestin de Sensei Yoshi, donc Benicio del Toro. Et là vraiment il y a une force assez incroyable qu'on retrouve dans cette fameuse scène de fin de course-poursuite sur une route vallonnée, mais c'est vraiment magnifique aussi. Et là on voit aussi à quel point le metteur en scène peut être dans une ampleur assez folle, et là atteindre à certains degrés un cinéma américain très très grande fresque sur l'Amérique, etc., qui fait corps avec ses paysages, comme à avoir un regard très très précis et pas du tout anhistorique comme peut l'être la course-poursuite qui nous renvoie vers plein d'autres trucs, un regard très très précis sur des rafles qui sont globalement commises tous les jours par le ICE aux États-Unis. Et là, vraiment, ça fait partie des forces de ce film, à mon avis.
Bah ouais, enfin pour le coup, je suis d'accord. Comment dire, sur le fait. Enfin, en fait, le film, je trouve, est paradoxal sur ce point-là parce que il montre ces choses-là, il prête une attention. Et en même
temps, par là, le film s'ouvre effectivement sur un centre de rétention de mineurs.
Oui, non, mais même après, enfin, je veux dire, comme tu l'as dit, il y a, enfin, la question des rafles de sans-papiers, etc., qui revient régulièrement pendant le film. Mais en même temps, enfin, j'ai un peu l'impression que le film, par moment et assez souvent quand même, en fait, se perd un peu trop dans son ironie aussi et finit par les laisser un peu au fond du plan dans certains cas, voire les réduire à l'état, alors pas forcément de décor, mais aussi de comic relief en fait, enfin, ce qui est un peu la limite du truc. Et en fait, ce qui, enfin, je reviens à cette histoire de famille, mais enfin, encore une fois, le problème que j'ai avec,
moi, je suis d'accord avec toi sur la famille pour le coup,
c'est qu'en fait, enfin voilà, on pourrait se dire que oui, le personnage de la mère en fait est évacué pour le coup étonnamment vite. Mais en fait, le truc, c'est que DiCaprio, il passe tout le film à juste chercher sa fille, en fait.
Oui, il est plus motivé par la lutte, du tout.
Oui, mais ce qui est un propos intéressant aussi, mais c'est du coup, enfin, derrière, enfin, en fait, PTA, il suit tellement le personnage de DiCaprio que bah, lui aussi, du coup, il abandonne la lutte, entre guillemets. Et tu perds, enfin, pour moi, l'intérêt du film jusqu'à cette séquence de nuit centrale. Qui est qu'en fait, pour moi, c'est un film à réaction. C'est-à-dire que c'est un film où chaque séquence, en fait, pète et va dans une direction différente, enfin, ou embraye dans une autre direction. Et qui est assez inattendu, pas si balisé que ça. Et à partir de cette séquence de nuit, au moment où, en fait, DiCaprio, il finit par trouver une échappatoire et, en fait, se remettre sur la route jusqu'à sa fille. Ben en fait, paradoxalement, je trouve que c'est là que le film se perd et se dégonfle, parce que pour moi, ce qui était intéressant, c'est les manières qu'il avait d'arrêter de suivre une route, justement, rectiligne, mais de bifurquer, en fait, de changer de voie, de changer de route carrément, enfin, voire de sortir du truc. Donc ouais.
Après, je trouve aussi quand même que cette histoire de famille est toujours intrinsèquement liée à... Enfin, oui, DiCaprio, il cherche sa fille tout le film, mais en vrai, même dans la scène d'intro, t'as l'impression qu'il est là par accident un peu,
oui, ça, c'est
tu
vrai.
Vois.
Ça,
et
c'est
du
vrai,
coup,
ouais.
Et du coup, quand tu, enfin, quand 16 ans plus tard, bah, il se retrouve à devoir être à nouveau embarqué dans un truc un peu contre son gré, et en plus à devoir chercher sa fille, c'est pas complètement déconnant, et il y a ce truc un peu, encore une fois, assez, je trouve, beau de, on voit aussi. Que, enfin, lui traverse et rencontre plein de gens, plein de situations où d'autres personnes ont pris le relais en fait et ont repris le flambeau. Et pour le coup, le personnage de sa fille, elle a une vraie trajectoire par rapport à certes à son histoire familiale, mais liée à la lutte. Ce qui l'interroge, c'est pas tant de retrouver sa mère ou de savoir qui est sa mère ou je sais pas quoi, mais c'est le fait que sa mère a balancé tout le monde et comment elle se positionne par rapport à ça, comment elle... Enfin, il y a plus cette question de, je trouve, d'héritage par rapport à la lutte et à l'idéal révolutionnaire du collectif. Et de fait, il y a plein de séquences où... Enfin, il y a plusieurs séquences au moins où elle-même reprend un peu le flambeau et où je trouve que du coup, certes, ça reste un truc, il y a évidemment un grand aspect fresque familiale, enfin pas fresque familiale, mais histoire familiale, mais qui, pour moi, ne sort jamais non plus complètement des clous du film. Après, je te rejoins par contre sur le côté, le fait que parfois l'ironie du film et aussi son piège, et où du coup il peut perdre pour le coup un peu de vue et transformer en décor, en arrière-plan. Voilà, je suis assez d'accord sur ça. Vas-y. Non, mais juste, et oui, non, et parce que je repense au fait que DiCaprio est un peu à côté de la plaque tout le film, et ça me fait penser, et vraiment, il a une espèce de virage dans sa carrière, je trouve, depuis quelques années, quelques films, mm-hmm. où à une époque c'était le jeune premier, à une époque il jouait Et il y a un peu torturé, stylé, premier rôle. Et là, mais depuis quelques films, il ne joue que des losers, mais c'est assez hilarant.
C'est trois films des années 2020. C'est Don't Look Up, le film de Scorsese, Killers of the Flower Moon, et celui-ci.
Ouais.
Qui sont
et même avant ça, Once Upon a Time in Hollywood, oui, pareil, complètement largué.
Mais en même temps, marrant. Je trouve vraiment mieux là.
Ah, mais c'est complètement, je suis assez d'accord. Carrière, c'est là où je veux en venir, c'est que je le trouve du coup assez bon là-dedans. Il y a une espèce d'auto.
Sans cabotiner pour autant.
Ouais, non, c'est assez chouette. Bref, vas-y.
Mais non. alors précisément, on peut faire le lien avec le jeu et la question de l'ironie que tu abordais tout à l'heure, puisque tu as aussi parlé de satire dans ton premier premier avis global sur le film, et je pense que c'est quelque chose qu'on peut aussi évoquer. Je trouve que une bataille après l'autre, ça joue pour le coup très bien sur le plan de la satire, à plein d'égards différents. Je trouve que il joue beaucoup de tas de renversements burlesques en fait, et qui marchent mieux si on prend le film dont on parlait la semaine dernière, que les poussives tentatives carnavalesques de Nadav Lapid en fait. Puis parce que pourtant il ridiculise aussi tous ces personnages, Paul Thomas Anderson, avec Sean Penn, on ne peut pas parler aussi, hein, mais qui campe un méchant qui est à la fois absolument pas crédible et quand même légèrement flippant, mais qui est surtout rabaissé jusqu'au bout avec un twist qui donne l'impression qu'il aura le droit à une fin un peu glorieuse à la Terminator, simplement pour finir un petit peu plus humilié encore après. En face, donc, on a DiCaprio qui joue un paumé, on l'a dit. On a l'intransigeance stupide des révolutionnaires sur la question des mots de passe. On a le calme étrange de Sensei Yoshi. Il y a les vieux hommes blancs des aventuriers de Noël qui, eux, se retrouvent dans un basement digne de James Bond sous du logement pavillonnaire. Et puis, en même temps, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est vraiment de la caricature aussi ? Parce que franchement, quand on voit les fans, notamment, je pense aux assaillants du Capitole ou les conseillers même de Trump, rien n'est moins certain. Et puis dans la satire,
c'est du néo-réalisme, comme dirait
non, mais ce qui est intéressant aussi dans la satire et qui le lie aussi un petit peu à Nadav Lapid, c'est le rapport, enfin c'est la façon dont tout ça est vachement lié au sexe, quoi, parce que à un stade qui en devient comique, c'est-à-dire que Nadav Lapid il mettait des scènes de sexe pour montrer, on va dire, la le cliché de la bourgeoisie décadente, etc. Ici, alors c'est un peu simpliste, mais c'est efficace quand même, c'est-à-dire qu'on a d'une part le sexe révolutionnaire qui est passionné, sensuel, consenti et vraiment surtout à deux, qui naît de l'amour et de l'excitation mutuelle de Perfidia et de Leonardo DiCaprio. En face, t'as un sexe fasciste qui est solitaire et qui tient plutôt dans l'humiliation et dans la soumission, avec une scène peut-être caricaturale qu'on a déjà chez... Enfin, moi, qui m'a fait penser à un extrait du Fléau de Stephen King, avec un flingue dans les fesses, navré pour la... Si vous êtes en train de manger, ne vous écoutez pas. mais manière simpliste, je disais, mais efficace, de lier à la fois du désir érotique et du désir de puissance. Voilà, de libido qu'on trouve chez Saint-Augustin, qui s'attendait à de la théologie augustinienne dans le comptoir sur Paul Thomas Anderson. Du reste, en fait, cette outrance, voilà, elle flirte avec une vulgarité parfois burlesque, mais toujours réjouissante, qui, si elle va pas bien loin, je trouve qu'elle est beaucoup plus parlante, même pour évoquer la société d'aujourd'hui, que ce qu'on avait dans Oui la semaine dernière. Je sais pas ce que
tu penses. Ouais, mais même là,
je te vois lever les yeux.
Non, mais c'est parce que, je suis d'accord, en fait, mais... disons que j'y poserais juste une limite, c'est que je trouve que cette sexualité, elle est quand même, on va le dire, bornée au personnage de Perfidia.
C'est vrai. Enfin,
oui, bah...
la sexualité révolutionnaire, c'est vrai que. Ouais. Enfin, vas-y.
Oui, mais et en fait, le truc, c'est que. Y a un truc qui me taraude dans le coin de la tête, c'est que, en fait, le personnage de Perfidia, on le voit assez peu dans le film. Enfin, disons que. En fait, en dehors des scènes d'introduction avant qu'elle se fasse choper et tout, la seule scène où on la voit après, en gros, c'est quand elle s'échappe et on la voit en gros passer au Mexique vite fait, mais guère plus. Et du coup, en fait, sinon, le reste des scènes, c'est quand même pour le coup un regard hyper sexualisant qui, à un moment, je me suis dit, je comprends l'idée, je vois l'intérêt, mais je me demande s'il n'y a pas une limite là-dedans, dans ce que tu fais dans ce qu'il fait de sa personnage. Donc voilà, je poserais juste cette limite en question. Mais sinon, je suis assez d'accord avec toi.
Sur ça, moi, je trouve que, justement, je voulais en parler, le film est assez, je trouve, encore une fois, assez juste sur ça. C'est que, elle est... en fait, c'est une sexualisation où le personnage de Perfidia Et c'est dans ce contexte que tu disais de sexe fasciste, d'humiliation, elle essaie de reprendre l'ascendant et de. Et en fait, j'ai vu. En fait, je trouve que j'ai vu beaucoup de critiques, que ce soit sur Letterboxd ou sur Sens Critique ou sur des blogs, parce que j'ai regardé un petit peu. Et vraiment des gens qui n'ont rien compris et qui écrivaient premier degré, mais même pas en termes d'avis ou d'interprétation, mais vraiment dans le synopsis du film. Perfidia, enfin, Lockjaw développe une obsession pour Perfidia, qui elle-même est attirée par lui et donc accepte d'entretenir une relation avec lui, etc.
Et non, ça me paraît contre-sens,
que, ouais, c'est un énorme contre-sens parce que pas du tout. Et ça tient au fait, je pense, que ces gens sont un peu débiles et que la représentation du viol, parce que c'est un viol qu'on voit dans ce film, ne correspond pas du tout à ce qu'on voit le plus souvent dans le cinéma et qui sont des représentations qui elles-mêmes sont induites par le male gaze, en fait. Et là, au contraire, on a un personnage féminin qui, même dans un contexte de viol, en fait, reprend l'ascendant pour essayer de s'émanciper. Et
oui, parce que c'est elle la dominatrice dans la relation, voilà, SM qu'elle a avec Lockjaw.
Et c'est là que je trouve ça intéressant, c'est que le film, du coup, bon, alors faut pas, voilà, restons sur terre, PTA n'est pas un militant féministe ou quoi, mais je veux dire, je trouve que le film, quand même, un petit peu, interroge certaines représentations patriarcales de ce que c'est que le consentement, de ce que c'est qu'un viol, et de voir que, en l'occurrence, la domination qu'elle semble, enfin, elle semble vraiment tenir Lockjaw dans sa main, quoi. Et à aucun moment, ça veut dire qu'elle est consentante pour autant. Et je trouve que du coup, ça, c'est pas si. Enfin, c'est assez bien amené. Et je trouve ça. Ouais, je trouve ça assez intelligent.
Oui, tout à fait. Puisque le personnage fait l'expérience lui-même. Enfin, Lockjaw fait l'expérience du fait que. Enfin, quand il est, entre guillemets, trahi à nouveau par Perfidia, etc. Enfin, on voit vraiment ces dynamiques-là à l'œuvre. Et là, c'est très. Je trouve que vraiment la dynamique entre Lockjaw et Perfidia, telle que tu l'as décrite, est. Enfin, on la voit telle quelle dans le film, en tout cas, quand on ouvre les yeux. Et ça marche assez bien,
D'ailleurs, cette histoire du viol qui n'est pas filmé comme d'habitude, avec une espèce de rapport de domination qui est un peu inversé et tout, c'est intéressant parce que ça fait...
D'ailleurs, il peut filmer tout court, en
vrai. Il n'y a pas de complaisance là-dessus, pour le coup.
C'est très court. Mais en fait, je viens de me rendre compte, ça fait écho, pour le coup, à la fin du personnage de Lockjaw dans le film, qui fantasme sur le fait qu'il se serait fait violer, alors que c'est l'inverse, tu vois.
C'est le narratif, pour le coup, que lui donne aux aventuriers de Noël.
Ça, c'est excellent comme van.
Les aventuriers de Noël.
Ouais.
Oui. Ah oui. Oui. Mais du coup, effectivement, les aventuriers de Noël, donc lui, enfin, sont horrifiés à l'idée qu'un de leurs membres, donc de ce club très sélect, masculin, blanc et vieux, ait pu avoir donc une relation sexuelle avec une femme noire, et donc pour essayer une dernière fois d'obtenir leur assentiment à ce qu'ils rejoignent le club, Lockjaw raconte qu'il a été, c'est lui la victime dans l'histoire.
Mais c'est que tu vois, en fait, j'en reviens sur cette histoire de famille, je suis désolé. Mais,
on va y revenir, je pense. Ouais,
mais c'est qu'en fait, tu vois, même dans cette partie-là de l'histoire qui tourne autour de Lockjaw, de son obsession pour cette espèce de Ku Klux Klan de millionnaires qui s'appelle les Aventuriers de Noël.
Qui salue en disant Joyeux Noël. Alors même si
et qui a une sonnette.
Saint-Nicolas, même.
Oui, c'est ça. C'est tout à fait.
C'est Joyeux Saint-Nicolas. Et le pire, c'est qu'en gros, quand tu toques à leur porte, il faut genre toquer Jingle Bells, tu vois. C'est...
Oui, exactement. Et puis il y a une musique de Noël dans extra-diégétique, je veux dire. Mais
ils ont un fond papier peint de Noël. Enfin,
c'est une assez bonne. Franchement, c'est une assez bonne vanne, tout en étant très sérieux sur les groupes, les lobbyistes de fait suprémacistes blancs. Bref,
mais c'est qu'en fait, même du coup, en fait, eux, le problème qu'ils ont avec Lockjaw, c'est effectivement le fait qu'il aurait, enfin au début, c'est qu'il aurait eu des relations sexuelles, voire un gosse avec une personne noire, et alors pour eux, c'est l'avenue de l'Antéchrist. Mais en fait, du coup, même eux, toute leur présence derrière dans le film est tient qu'à cet enjeu familial qui est trouver la fille, trouver en gros les racines familiales, on va dire, déterminer l'arbre généalogique, voir si c'est validé par le Ku Klux Klan ou pas. Et même là, du coup, il peut pas s'empêcher d'aller vers ce truc familial qui, encore une fois, est pas mal fait, mais je suis en mode, c'est dommage parce que la première heure du film, la première partie du film jusqu'à la fin de cette séquence de nuit, je la trouve assez folle dans la manière dont elle fait de l'action sans horizon, en fait, quasiment.
Oui, c'est ça, c'est de l'action du pur instant, pour le coup. Je veux dire, il n'y a pas du pur présent, mais il n'y a absolument aucune possibilité de se projeter.
Mais c'est pas, en même temps, tu vois, c'est pas quelque chose de déréalisé ou quoi que ce soit, au contraire, parce que, en fait, du coup, c'est de l'action qui crée constamment quelque chose, qui projette constamment, la situation, ce qui est en train de se passer autre part. Et en fait, du coup, ouais, c'est ce que je disais, mais cette espèce de force créatrice qui a un tempo assez élevé et qui fonctionne par réaction comme ça, en fait, ouais, elle se perd dès que tu reviens sur cette route de « il faut retrouver la fille ». Et même si elle est très bien faite et qu'elle aboutit à cette séquence complètement folle de course-poursuite.
Même si, en fait, la question de la famille le rapproche aussi, enfin, permet ces retournements invraisemblables de scénario qui le rapproche du soap-opéra, voire de la telenovela, par moment, quand même. C'est-à-dire que la question de la possible paternité de Lockjaw, issue des relations sexuelles qu'il a eues avec Perfidia, elle apparaît d'un coup. Puis c'est montré un peu, enfin il y a un suspense sur la révélation autour d'un test ADN, etc., qui vraiment qui font aussi la force et les limites du scénario, c'est-à-dire que à nouveau ça dépend juste de l'ampleur et de l'ambition qu'on veut lui donner, parce que si à nouveau faut le voir comme quelque chose qui n'a pas non plus qui ne prête pas beaucoup à conséquences, c'est très drôle, c'est très bien et ça mène avec le film. Si après le film a plus d'ambition, c'est un. Et en même temps, il prétend pas du tout au réalisme. C'est-à-dire que là, je formule pas forcément un avis définitif, puisque je peux pas reprocher au film d'être invraisemblable ou de faire ses choix de telenovela, entre guillemets, qui à nouveau n'est pas une critique en soi, puisque je suis bien conscient qu'il se donne aussi comme une fable ou comme un conte, entre guillemets, où l'enjeu principal est familial.
Bah, ça, pour le coup, je trouve que c'est quelque chose de... comment dire, de... enfin, pas évident, mais d'acquis, entre guillemets, dans le sens où c'est quelque chose de très Paul Thomas Anderson.
C'est vrai que, pour le coup, c'était mon premier.
Voilà, mais en fait, cette espèce de côté too much, un peu bouffon, genre burlesque, grotesque.
Limite un peu melting pot de genre.
Ouais, c'est ça. Et puis même,
il n'y a aucun genre en particulier.
Avec des soupçons des éléments irréels qui se baladent. Ouais. Alors, sans compter que c'est pas vraiment un spoil, mais Magnolia, par exemple, ça se termine sur une pluie de grenouilles. Là, entre guillemets, t'as le Lockjaw à la fin qui sort des flammes comme un Terminator. T'as ces petits trucs comme ça, et globalement, ce ton, très, très bouffon tout au long du film, qui pour le coup est très Paul Thomas Anderson, genre c'est entre guillemets son style de satire, quoi. Mais la question que je me pose, pardon, je te coupe, c'est que on parle de scénario et tout. Moi, je me demande, en fait, parce que j'ai lu que le film, alors le film le mentionne pas, mais apparemment ça a été quand même un peu confirmé, notamment en Projo Test et tout. Le film, en fait, serait adapté d'un bouquin de Thomas Pynchon, qui s'appelle Vineland, je crois.
C'est même pas écrit au générique, en fait, ça m'a un peu...
Non, c'est même pas écrit au générique.
C'est écrit au générique.
Ah ouais, Ah bah, j'ai pas fait gaffe. mais du coup, quelque part, je serais intéressé de voir... ce qu'en a retenu Anderson, en fait.
Il en a pas il a retenu une partie, vraiment, une petite partie qui se passe aussi dans les années 70, etc.
Je vois l'apparenté, tu vois, thématique, statistique et tout, mais
il en a fait quelque chose de singulier. Et...
mais ouais, je trouve que, en fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est que je trouve que Pynchon, c'est un auteur qui est caractérisé entre autres par une densité assez extraordinaire.
Okay. J'ai pas lu.
J'ai lu que des bouts en cours d'anglais, mais c'est le problème, c'est que dans ce film-là, je trouve que il finit par manquer de densité. Et puis un dernier élément comme ça, quand je dis qu'il laisse un peu son côté politique sur le côté, c'est qu'en fait même les personnages les figures de la lutte, en fait, dans la deuxième partie du film, elles sont réduites à des espèces de... des comic relief ou des espèces de tokens. C'est-à-dire que t'as le personnage du pote de Ghetto Pat, là, qui intervient genre sur un plan pour, en fait, donner le lieu du rendez-vous et le mot de passe.
Celui qui est joué par David John, ouais. Oui,
j'avais pas le nom de l'acteur. Mais, il avait pas non plus un rôle ultra important au début du film, mais non. Il était là, quoi. Mais pour le coup, il est réduit à quelqu'un de complètement figé, Alors, on comprend que c'est, il est toujours dans une espèce de cellule encore en mouvement et tout, mais en fait, il est réduit pour le coup à donner qu'un lieu de rendez-vous avec une petite blague en mode, re-bienvenue dans le game, Leonardo DiCaprio, tu vois. Et pareil, en fait, les autres figures de la lutte, pour le coup féminines, qui se sont réfugiées dans un espèce de couvent de bonnes sœurs qui fument de la weed, c'est quand même une autre idée géniale du film, en fait, elles sont très enfermées dans ce motif-là, ouais. Qui est très drôle, c'est une bonne blague.
Mais elles n'existent
pas. Mais du coup, elles n'existent plus, en fait. Et pour moi, c'est symptomatique de la forme du film, de sa structure.
Alors, oui, et en même temps, du coup, je trouve que c'est... Ouais, je suis très proche, pardon. C'est aussi je pense que c'est aussi à voir sous le prisme du fait que le film est peut-être aussi assez pessimiste, en fait. Encore une fois, c'est pour ça que la fin m'a saoulé. Mmh. C'est que la fin, c'est cette espèce de truc hyper bateau et très attendu de...
Et la lutte continue.
Allez, l'espoir que peut-être la nouvelle génération... Bref. Ouais. Alors que pendant tout le film, il y a ce... Même si lui finit très mal, mais il y a l'aspect que Lockjaw et ses forces armées gagnent, quoi, en fait. Et effectivement, et qu'ils ont gagné par le passé et qu'ils sont en train de gagner encore. Et qu'effectivement, ils ne sont réduits plus qu'à ça, ces anciens militants et activistes et révolutionnaires, parce que ils sont voués à ne plus pouvoir que se cacher. Mais comme le personnage de DiCaprio, finalement, qui vit... sa vie de dude effectivement digne des frères Cohen.
Il y a un côté frère Cohen dans tout le film d'ailleurs.
Ouais, il y a un vrai
peu dans le côté grotesque ou
mais du coup voilà, je trouve que c'est aussi quand même je le récuserai pas non plus complètement parce que il y a ce côté faire ce qu'on peut aussi quoi et un aspect peut-être un peu pessimiste que je trouve pas complètement inintéressant.
Ouais, après, effectivement, je sais pas si je l'ai vraiment beaucoup senti, le pessimisme. J'ai senti une distance, on va dire, du réel, mais sans forcément que je perçoive ça comme du pessimisme ou comme du...
Ouais.
Plutôt vraiment une mise à distance de tous ces personnages, même des révolutionnaires ou des progressistes, comme ils sont traduits dans les sous-titres. Et je trouve que justement, le pessimisme manque un petit peu pour que le film soit, entre guillemets, de la race des grands films sur l'Amérique, comme on dit. Parce que je pense qu'il faudrait qu'il arrive à jouer un petit peu plus subtilement avec les codes qu'il mobilise. Et comme on l'a dit, du fait sans doute qu'il est produit par une major qui est la Warner, le film, il finit par épouser une trajectoire sans accroc, une route, comme tu le disais, Aubry. Et avec cette idée de réconciliation finale qui donc est vraiment, et tu l'as dit Nathan, décevante parce que en fait ce qui manque aussi en termes de pessimisme pardon, dans le film, c'est par exemple, c'est assez symptomatique de ça, c'est que toute mort est justifiée par exemple, et en un sens même toute mort est méritée. Il n'y en a pas énormément des personnages qui meurent dans les personnages principaux, mais à l'inverse, je pense, j'y pense parce que je l'ai vu récemment à l'Institut Lumière, mais d'un grand film sur l'Amérique qui est Voyage au bout de l'enfer de Cimino. Bon, il y a la mort d'un personnage qui a pas d'explication lisible entre guillemets. Il a pas fauté, c'est pas un méchant, c'est pas quelque chose comme ça. Juste, mais de fait, le film touche plus directement à la réalité. Et puis, si on regarde dans notre généalogie américaine, je trouve qu'il prend un peu la direction d'un Sam Peckinpah sur la fin avec cette fameuse course poursuite. En plein milieu du désert, où se tirent des coups de feu, et puis d'un coup il y a du mutisme alors que tout le monde parle en continu dans le film dans une bataille après l'autre. D'un coup il y a vraiment du silence, il y a une tension de dingue quand la parole est plus rapportée qu'un code que lance Willa à Bob et que elle veut absolument qu'il lui réponde alors qu'elle même qu'elle a reconnu que c'était son père. Bref, donc ça se reproche d'une espèce de sang froid, par exemple, apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia de Peckinpah qui se termine aussi dans le désert. Mais il y a ce côté décevant, donc, et puis qui fait que le film, moi, ne parvient pas à m'emporter comme une grande fresque épique, qui est cette réconciliation quasi larmoyante qu'on a à la fin, qui est redoublée non seulement dans le désert, mais ensuite dans le
désert, à la limite, c'est OK, mais oui, la fin est...
En fait, le mobile semble étrange parce que... Sincèrement, c'est 5 minutes. Il y a une lettre de la mère. Je ne dis pas de quoi elle parle, mais du coup, qui va dans cette dynamique de réconciliation, etc. Et qui, je trouve vraiment, pour le coup, le plus inutile et cliché au possible. C'est-à-dire que je donne pas trop dans la critique des grands studios de machin en général, par principe. Mais là, en l'occurrence, ça semble effectivement le truc pour faire pleurer. Et de fait, la personne qui était à côté de moi au cinéma, je veux dire, que je connaissais pas. Elle, il a pleuré toutes les larmes de son corps sur la fin, qui me paraît un peu abusé.
Ouais, le problème, c'est surtout que c'est invalide. Enfin, c'est quand même dingue. C'est qu'en fait, c'est une séquence de 5 minutes qui invalide 2h40 de film. Quoi. C'est
vrai que tel point qu'on peut se demander de son sérieux, même par rapport à la volonté du réal, je pense.
Bah, c'est ça, et c'est qu'en fait, le problème de cette séquence, c'est que tu te dis, alors, malgré tout le problème que j'ai, on va dire, par rapport à ce qu'aurait pu faire le film sur cette question de la famille, etc., sur laquelle il choisit de se concentrer, je trouve qu'en fait, il réussit quand même bien à la traiter. Il y a plein de séquences intéressantes, et je trouve qu'il, même si là aussi, j'aurais aimé que ça soit plus exploité, en fait, il commence à entretenir une forme de mélancolie un peu sinueuse par le personnage de DiCaprio et aussi celui de sa fille, mais il y a les séquences où DiCaprio en fait il prend la mauvaise direction sur la route, c'est-à-dire qu'il suit la mauvaise personne, il suit Lockjaw, et truc effectivement très 70s ou Peckinpah, c'est qu'en fait au moment où il arrive à voir Lockjaw, Lockjaw est mort, enfin du coup non, mais sur le moment on pense qu'il est mort, et en fait il se retrouve juste à marcher paumé, sans but, sans savoir ce qui...
C'est magnifique, ouais.
Voilà, et il fait le choix. En plus, il fait le choix de filmer ça en gros plan, tu vois, alors que là, t'aurais pu faire péter le dézoom avec...
Son Oliver Latché.
Voilà, exactement. Et je trouve ces trucs-là formidables. Et DiCaprio le joue, mais tellement bien. Et il est super juste dans ce rôle-là. Et cette séquence de fin, en fait, avec ce Leonardo DiCaprio qui, en gros, tape sur l'épaule de sa gamine en lui disant « Va faire la révolution, moi je bois mon whisky », et tout va bien dans le meilleur des mondes.
Tu fais un selfie. Enfin,
ça invalide toute la mélancolie du personnage. Ça la fout sous le tapis. Et je suis en mode, mais enfin, ça va pas de se saborder comme ça.
Donc, notre conseil, c'est de partir après qu'il se soit fait un câlin dans le
ouais, ouais. Voilà. Et juste, quand même, je reviens sur ce que tu as dit. Il y a quand même, il me semble, mais je l'ai peut-être rêvé. Parce que, du coup, tu me mets un doute. Mais je devrais recommencer à prendre des notes au cinéma. Mais il y a. Quand même cette séquence au moment où Perfidia trahit ses camarades, où on voit Lockjaw ou des hommes de main de Lockjaw buter plein de visages qu'on a vus pendant toute la première partie du film.
Effectivement, t'as raison, mais on s'y est pas attaché.
Alors non, on s'y est pas attaché.
Mais tu as raison, non, la mort est présente.
Mais j'ai vraiment vécu ce truc comme il y a ce premier film dans le film où il y a la lutte révolutionnaire, il y a des actions, des attentats dans tous les sens. Bam, il y a un gros grain de sable dans la matrice. Tout part à volo et comment reconstruire à partir de ça et du coup reconstruire soit en se cachant et en pouvant plus faire grand chose, du coup en passant par d'autres, enfin en léguant à d'autres gens, laisser renaître une autre lutte, etc. Donc voilà, mais par contre j'entends quand même cette réserve là plus générale, mais c'était juste pour mettre au point quand même que je trouve que c'est pas complètement mais absent non plus du film.
Il y a plein de petites séquences dans le film comme ça qui sont vachement intéressantes, notamment sur la violence. Et je terminerai avec ça. Du coup, c'est les séquences où en fait, l'armée, la police débarquent dans le bled où ils sont, sauf qu'ils sont en retard sur DiCaprio et sa fille, et ils interrogent les potes de la fille de DiCaprio. Et c'est très court, c'est quelques plans avec le mec qui fait, enfin toujours le même mec qui fait les interrogatoires. Et en fait, les questions sont toutes bêtes entre guillemets, sont vraiment triviales. C'est-à-dire, ce qui filme Paul Thomas Anderson, c'est pas les menaces, les en mode vas-y, j'ai te casser la gueule si tu réponds pas. Ce qu'on voyait plutôt dans le film en fait, mais il filme le est-ce que tu peux déverrouiller ton téléphone et me le montrer s'il te plaît. Des trucs tout banals comme ça et qui prennent, enfin qui deviennent super violents en fait mine de rien. Je trouve que le film en fait fait plein de petits trucs comme ça très très intéressants.
Ouais.
Donc voilà.
Peut-être juste dernier truc sur parce qu'on en a pas parlé alors que quand même il se débat dans tous les sens pour qu'on en parle, donc quand même faut en parler. Sean Penn
Qui
fait une perf
il cabotine
non mais je suis d'accord mais il va avoir son Oscar hein. Moi je voulais juste prendre la parole pour faire mon prono.
Je boycotte l'Académie.
Oscar du second rôle, c'est sûr qu'il va l'avoir, il fait tout pour l'avoir, je vois pas comment il peut passer à côté. Je suis complètement d'accord. Pour moi, il y a des moments où il en fait beaucoup trop, mais il joue un des personnages les plus détraqués. Enfin, vraiment, il est fou malade. Il le fait en faisant des mimiques de bouche, en s'inventant une nouvelle démarche. Donc vraiment, enfin, je pense qu'il fait un peu tout pour l'avoir et je pense qu'il l'aura.
En fait, tu vois, moi, je comprends le côté personnage un peu fou et tout, mais ça me sortait du film à chaque fois. Enfin, Joaquin Phoenix à côté, c'est sobre comme jeu, tu vois. Genre,
ouais, c'est vrai.
J'étais là, chaque mimique, chaque truc est sursouligné, la mise en scène va dans ce sens-là. J'ai compris qu'il était bizarre, arrête de me le montrer. Enfin, bref.
Et bah, sur ce pronostic, il nous faut conclure et passer au conseil. Aubry, quel est ton conseil pour la semaine ?
Eh ben j'en ai deux. Non, désolé. J'en ai un très très rapide, juste dans la même veine que le Pitié, mais en beaucoup plus, enfin, resserré, dense et plus maîtrisé, je trouve. C'est le Black Klansman de Spike Lee, qui est sorti il y a bientôt une dizaine d'années déjà, qui est qui a la même énergie destructrice, le même côté un peu bouffon qui le traverse, mais que je trouve beaucoup plus réussi et maîtrisé. Et non, ma vraie reco, c'est un
et
film
qui est sur
que,
Netflix voilà. Pour celles et ceux qui le cherchent.
Parfait. Et ma vraie reco, par contre, c'est un film que vous pouvez aller voir en salle, notamment au Cinéma Comédia, mais aussi au Zola, peut-être. Je sais pas s'il passe toujours. Non, bon. Bah, au Comédia, en tout cas. Et peut-être ailleurs. C'est Soundtrack to a Coup d'État, un documentaire fleuve de 2h30 d'un cinéaste belge dont j'ai oublié le nom.
Johan Grimont-Pré.
Merci, Louis. Qui, en gros, suit chronologiquement les quelques mois où Patrice Lumumba a été au pouvoir au Congo. Et l'originalité, c'est qu'en fait, le documentaire le suit en traversant cette époque-là, en étant accompagné de la musique jazz, en fait, de la musique afro-américaine de l'époque. Et non seulement c'est un montage d'archives à la fois assez rare, enfin que moi, par exemple, je connaissais pas, mais en termes de montage, c'est aussi très très fort. Et tout ça, ça tourne autour d'un projet qui est assez fou, qui est de dire, ben, en fait, toute cette histoire-là, qui entre guillemets est de la vraie histoire, c'est du documentaire, mais en fait c'est une fiction des puissants et des puissances. Et du coup, l'idée, c'est par ces jeux de montage-là de faire émerger de cette fiction-là, de cette mascarade en fait des puissants, notamment à l'ONU, la vérité, enfin pas la vérité, mais genre une vérité des images documentaires, notamment en redescendant complètement l'échelle sociale et en allant en fait au plus près des populations congolaises de l'époque dans les images d'archives, et aussi même en fait de gens comme Patrice Lumumba, qui, comme l'expliquaient les gens qui le présentaient en clôture du festival pour la suite du monde, bah en fait était pas non plus une haute bourgeoisie intellectuelle ou quoi que ce soit. Donc vraiment, c'est un tract au coup d'État. Pour l'instant, à mes yeux, c'est le meilleur film de l'année, le film le plus fort de l'année, voilà, c'est dit. Donc, chaude recommandation, surtout qu'il ne devrait pas rester trop trop longtemps sur les écrans.
Et dans un genre tout à fait différent de Paul Thomas Anderson, il a beau durer 2h30, il passe excessivement vite.
Vraiment, c'est
vraiment
exceptionnel.
C'est vraiment super. Nathan, ta recommandation ?
Oui, alors ça ne sera pas du cinéma, ça sera du théâtre, et ça sera très intéressé puisque je suis venu pour faire ma propagande. Ce week-end, je joue dans un spectacle.
Je n'ai pas payé pour faire ça.
C'est vrai. Je joue, mais justement, si en plus d'être pas payé, il n'y a personne dans la salle, ça devient vraiment triste. Donc venez au Théâtre Cantor de l'ENS ce week-end. On joue le 10 et le 11, donc vendredi et samedi à 20h et dimanche à 18h, et on joue Tant que la nuit ne finit pas, qui est une pièce écrite et mise en scène par Manon Garnier, qui était à l'ENS, et c'est super. C'est en gros, c'est une soirée dans une boîte de nuit. Donc si vous avez toujours rêvé de faire une soirée au Théâtre Cantor, sous gros stroboscope, sur scène, avec potentiellement de la vodka dans des shots, voilà, vous êtes les bienvenus et ça sera super.
Merci beaucoup, Nathan. Et enfin, moi, mon conseil, c'est un film qui est très très peu distribué. À Lyon, il n'est que au l'UGC de la Cité Internationale, donc déjà, il faut vouloir aller dans cet endroit, mais qui est un film japonais. D'ailleurs, le cinéma japonais contemporain connaît une ira en France, et on peut s'en réjouir. Film donc réalisé par Neo Sora, qui est un Nepo Baby, dans la mesure où il est le fils du compositeur Ryuichi Sakamoto, mais qui ici donc propose son premier long métrage de fiction, qui s'appelle Happy End, j'y viens, et qui est assez remarquable, donc qui suit en gros quelques semaines avant la remise de diplôme un groupe de lycéens alors que le Japon s'arme de plus en plus pour de lois sécuritaires, autoritaires, iniques en prévision d'un grand tremblement de terre, et ça a des conséquences sur le lycée où est ce groupe d'amis. C'est un film de gauche japonais, comme il y en a eu beaucoup dans les années 70, par exemple ceux de Kinji Fukasaku, et c'est vraiment c'est un petit film aussi, parce que c'est un film de gauche japonais, entre guillemets, enfin je veux dire, ça va avec en général, et c'est un très beau compliment. Il y a une influence en même temps des teenage movies du Japon des années 90, que ce soit Battle Royale, donc sur la toute fin, ou Typhoon Club aussi, enfin plus généralement une grosse influence des années 90 assez réjouissante. Musicalement, c'est dingue, moi je me suis pas remis de la séquence d'ouverture, Vraiment, ça joue avec les codes de la dystopie adolescente, qui est un genre qui est mort et enterré hein, depuis la fin du labyrinthe, tout en n'étant pas du tout une dystopie, parce que tout ça est très très réel. Ça aborde de front la question des étrangers au Japon, avec des acteurs afro-japonais, avec la présence de Coréens, etc. Une question qui est plus que jamais centrale dans le débat politique japonais, hein, qui se radicalise comme partout dans le monde, avec un parti qui veut mettre les Japonais d'abord, et puis une chef du parti au pouvoir qui fait du thatcherisme son credo et du nipponisme tout pareil, et de l'américanisme aussi. Le tout, ça a une force comique et gaguesque assez dingue, avec une vieille DJ par exemple, ou bien une Nissan jaune renversée. Enfin bref, je pense ça reste donc, c'est très très fort politiquement, mine de rien, il y a de très belles idées visuelles avec des informations dans le ciel, etc. Tout en ayant une histoire habituelle d'amitié au lycée, je pense que sincèrement, j'aurais vu ça à 16-17 ans, ça aurait été un de mes films préférés. Là, j'avoue que ça m'a pas non plus tant que ça ému, et c'est un petit peu long, enfin ça fait un moment de 2 heures, mais c'est vraiment mais ça reste vraiment super, donc voilà, je vous recommande chaudement Happy End de Neo Sora.
Allez-y, c'est formidable.
Merci, Aubry. Tous ces conseils, vous pouvez les retrouver sur la page du comptoir sur transistor.fr. Merci à tous les deux, Aubry et Nathan, pour ce nouveau numéro du comptoir du cinéma. Merci aux auditeurs et aux auditrices. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de la Palme d'Or. Comme d'habitude, ce sera disponible sur transistor.fr et sur toutes vos plateformes de podcast. D'ici là, portez-vous bien, partagez-nous. Et si le cœur vous en dit de nous rejoindre, surtout, n'hésitez pas. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Vive le cinéma et vive Transistor.